Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous donnes afin de plonger nos regards dans ton ineffable parole. Nous savons que celle-ci, Seigneur, nous fortifie, nous instruit et nous permet, Seigneur, de mener une vie qui t'est agréable et qui s'approche, Seigneur, de ce que tu entends et de ce que tu désires pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, Seigneur, alors que nous parlons une fois de plus de la louange, que tu puisses ouvrir notre entendement et nos pensées à ta pensée. Parfois, Seigneur, lorsque ta parole est prononcée, il y a des choses qui viennent nous secouer, il y a des choses, Seigneur, qui viennent nous bousculer, mais nous prions, oh Dieu, que ce matin, ta grâce nous soit accordée afin de saisir ce que tu as pour nous et de faire en sorte que cela, Seigneur, s'implante, croisse, et fructifie dans nos vies jusqu'à porter un fruit, effectivement, qui t'est agréable jusque dans l'éternité. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis moi aussi, Seigneur, et que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Changement de décor, changement de coupe de cheveux. J'avais les cheveux qui étaient un peu trop longs à mon goût, donc je me suis débarrassé de ça hier, et puis changement de décor, juste pour faire changement de décor, pour apporter un peu de nouveauté. Donc ce matin, on continue le psaume 150, ça ne change pas, et on est aujourd'hui au verset 4. Je vais quand même lire ce beau psaume que vous savez qui m'est très cher, et je vais par la suite relire le verset 4 une ou deux fois, tout simplement pour s'assurer que le passage du jour nous reste bien en tête. Alors la parole de Dieu nous dit, louez Dieu, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Le verset 4, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Je répète, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Non, je n'ai pas mis la disposition de la caméra telle que nous l'avons mis aujourd'hui pour faire de la danse avec vous ou devant vous. C'est pas tout à fait mon genre, mais on va quand même aborder la question de la danse aujourd'hui parce que pour plusieurs, c'est un sujet qui peut être problématique. Pour certains, il y a un aspect un peu mystique dans tout ça qu'on va essayer de raccorder avec la justesse de la pensée biblique. Alors parlons tout d'abord du tambourin. Le tambourin, c'est le terme tof en hébreu, T-O-P-H, je répète, T-O-P-H pour ceux qui prennent des notes. Et le tof, qui serait en français deux instruments, oui, qu'on traduit par tambourin, mais qui ont un nom ou qui ont un ancêtre plus ancien qu'on appelle le timbrel et le tabret. Le timbrel et le tabret. En fait, le tambourin, dans sa version actuelle, ça devrait être tout simplement un anneau sur lequel il y a comme des clochettes ou des petites cymbales, si vous voulez. Donc, simplement l'anneau. À l'époque, et on le trouve encore dans certaines versions de ce qu'on appelle tambourin, mais qui est en fait un timbrel ou un tabret, c'était, oui, un cercle, oui, un anneau, avec des petites cymbales ou des petites cloches qui y étaient rattachées, mais de surcroît à cela, il y avait une peau d'un animal qui couvrait l'orifice du tambourin. Et ça, je suis convaincu que vous l'avez déjà vu, certains sont des experts à jouer avec le timbrel ou le tabret, même dans nos églises, ils ont une façon de pousser le pouce ou de faire glisser le pouce sur la peau de l'instrument et ça fait un son tout à fait, ou ça fait un rythme tout à fait intéressant. Donc, le timbrel ou le tabret, pour que vous compreniez, c'est considéré dans la culture juive. Si vous allez chercher dans certains dictionnaires qui contiennent ces mots-là, vous allez vous rendre compte que c'est considéré comme l'instrument le plus ancien d'Israël. Avant même le chauffard duquel on a parlé hier, donc la corne qui servait d'avertissement, qui servait de cri de ralliement pour le peuple d'Israël, avant même que le chauffard ne soit fonctionnel ou soit usé dans les pratiques du peuple d'Israël, on avait effectivement le tof, le timbrel ou le tabret qui était utilisé. Donc la louange a toujours, mais toujours fait partie du culte à Dieu. On nous dit même qu'avant la chute du diable, avant qu'il ne soit précipité sur terre, qu'il se soit révolté contre Dieu, qu'il était celui qui était entouré des musiciens et des instruments de musique. Donc déjà dans l'éternité, Dieu était célébré par les anges, par les archanges, au moyen de la louange et au moyen de la musique. Donc la musique a toujours fait partie de la louange à Dieu. Est-ce que la musique est la seule façon de louer Dieu? Non. Dieu peut aussi être loué à travers tout simplement des paroles d'exaltation, puisqu'on se rappelle que le terme louer, halal, veut dire amener la lumière, amener la brillance, faire exploser la gloire de Dieu. Donc c'est amener l'attention sur le Seigneur. Et ça peut se faire, oui, avec des instruments. Lorsqu'on sait effectivement jouer un instrument, ça peut se faire, oui, avec notre voix au niveau du chant, mais ça peut se faire aussi tout simplement avec nos paroles que nous élevons vers Dieu. Mais ce qui doit être clair, c'est que contrairement à certains groupes religieux, parfois même certaines églises, qui s'opposent aux instruments à l'intérieur de l'église parce qu'ils se disent qu'une fois que le diable est tombé, c'est lui le joueur de harpe et c'est lui le joueur d'instrument quelconque. Donc il y a certaines communautés, même chrétiennes, qui refusent à l'intérieur de leurs églises qu'on utilise des instruments. Bibliquement parlant, ce n'est pas nécessairement justifié parce qu'avant même que le diable n'existe, parce que le diable n'est pas éternel. Avant même que le diable n'existe, la louange vers Dieu était éternelle. Et lorsque le diable n'avait pas encore chuté, lorsque le diable ne s'était pas encore révolté contre Dieu avec ses acolytes, on louait déjà Dieu avec les instruments de musique. Alors ça serait triste, voire déplorable, de prendre ces instruments, de les jeter à la poubelle, tout simplement parce que le diable, à un moment donné, les a utilisés pour un autre propos que ceux pour lesquels ils avaient été à la base initiés, soit louer Dieu. Donc la louange fait partie, depuis toujours, du culte à Dieu. De surcroît à ça, si on revient tout simplement au tambourin, et là on va parler de quelque chose de culturel, les percussions font partie de la louange à Dieu. Il y a certaines cultures aussi, et je parle bien de cultures, de groupes ethniques, si vous voulez, où on refuse, dans nos églises des instruments de percussion parce que selon la coutume très contemporaine, très humaine, les percussions ont à un moment donné servi dans le culte, idolâtre et dans les cultes au diable. Tout sert dans le culte au diable. Ils vont prendre des animaux, ils vont prendre des boissons, ils vont prendre des légumes, des fruits, ils vont prendre des arbres pour du bois pour créer des idoles. Est-ce que ça veut dire qu'on doit exclure tout cela de nos cultes? Non. La chose importante, c'est de ramener ces choses-là dans l'usage pour lequel ils devaient être utilisé au départ. Lorsque vous regardez le livre de Job, lorsque vous regardez les premiers chapitres de la Genèse, lorsqu'on parle de l'époque de la création et tout ça, on se rend compte, notamment avec les descendants de Caïn, qu'il y avait effectivement célébration à Dieu à travers des instruments de musique. Donc les percussions ont aussi toujours fait partie de la louange à Dieu. Il ne faut pas démoniser les percussions sous prétexte que le diable, une fois de plus, les utilise. Les percussions font aussi, peuvent aussi, sont aussi appelées à faire partie de la louange envers Dieu. Enfin, lorsqu'on parle du tambourin, et la pensée qui m'est venue, c'est que ici, on est dans le dernier des psaumes qui auraient été écrits par David. Lorsqu'on regarde la chronologie des psaumes, ceux qui ont essayé de classer ça selon les événements de la vie de David, on pense effectivement que le psaume 50 est fort probablement non seulement dans le canon biblique tel qu'on l'a aujourd'hui, mais aussi dans la chronologie de la vie de David, probablement un des derniers chants qu'il n'a écrit. Donc, dans ce dernier chant, il fait appel à un instrument, le tof, le timbrel, le tabret, le tambourin, qui est très antérieur à sa personne, très antérieur à son époque. Et pour nous, en tout cas moi, ça me ramène sur une pensée particulière. Vous vous rappelez ces chants qu'on avait dans le temps, ce qu'on appelle les chants de l'époque. Certains avaient chant de victoire, certains avaient chant d'espérance, et on connaissait chacun de ces cantiques-là par le numéro qui lui était attitré dans le chant ou dans le recueil de chants. Ces chants-là étaient ce qu'on appelle traditionnellement des hymnes. Aujourd'hui, dans la culture contemporaine de l'Église, on a un peu perdu l'importance et la place qui était autrefois donnée aux hymnes. Certains d'entre eux ont été écrits plusieurs siècles avant notre époque et ont eu un impact tant dans cette époque-là que dans celles qui ont suivi et sont encore des bénédictions aujourd'hui. Malheureusement, plusieurs églises, plusieurs congrégations, parfois par facilité, parfois par question de style musical, d'époque musicale, on a eu tendance à reléguer un peu aux oubliettes ces vieux chants. Grâce infinie est probablement le plus célèbre. C'est mon histoire, c'est là mon chant, et peut-être un autre effectivement qui est très célèbre. Cette croix me sera toujours chère. En anglais, chacun de ces chants-là ont leur pendant. Amazing Grace, The Old Rocket Cross, This Is My Story. Donc, toutes ces chansons-là qu'on retrouve non seulement en français, écrites probablement initialement en anglais, ont été traduites dans une multitude de langues et ont béni des générations entières de l'Église. Et je pense qu'il est important, à l'occasion, de ne pas oublier ces acquis d'hier. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause de ceux qui ont été utilisés par le Seigneur dans le passé. Et dans le passé, le Seigneur a utilisé non seulement David pour écrire ces psaumes qui, je vous rappelle, étaient des chants, pour la plupart, mais de surcroît à ça, avec les générations de l'Église qui a suivi, Dieu a aussi utilisé des hommes et des femmes qui avaient des dons musicaux, qui avaient des dons de création, pour mettre sur papier des chants qui ont béni des générations. Pourquoi s'en priverait-on aujourd'hui? Alors, je pense qu'il est important, et c'est la pensée qui me venait lorsque je pensais au fait que le tambourin était de loin antérieur à l'époque de David, et que lui, malgré tout, appelait tout le monde à utiliser encore cet instrument. Pourquoi nous nous priverions aujourd'hui de la beauté, de la richesse et de l'onction qui coule encore à travers des chants comme « Grâce infinie », « Dieu tout-puissant » et tous les autres qui vous sont assurément chers à vous aussi. Donc, retournez aux instruments d'hier, retourner aux chants du passé, aux hymnes, peut être une bénédiction. Je sais que moi, dans mon temps personnel de dévotion, c'est les chants, les hymnes et les chants de mon enfance, chants d'église, j'entends, sont effectivement partie prenante de mon temps seul à seul avec le Seigneur. Lorsque j'élève un chant, la plupart du temps, ça va être de ces vieux hymnes qui ont marqué mon imagination, qui ont marqué mon cœur, mon âme, mon esprit, lorsque j'étais encore qu'un gamin et que je grandissais à l'Église. Donc, ne pas avoir peur de retourner et se réapproprier ces chants et ces merveilleuses paroles qui ont été inspirées par Dieu. Là, on tombe dans l'autre sujet. Il dit « Célébrer Dieu avec des tambourins et avec des danses ». Et s'il y a un sujet qui, par le passé, un peu moins aujourd'hui, mais par le passé, qui a été assez problématique, dans l'Église en général, c'était la question des danses. À un moment donné, il y a eu comme deux clans, ceux qui étaient en faveur de la danse et ceux qui étaient contre la danse. Ceux qui disaient non, la danse, c'est faire rentrer, les choses du diable à l'intérieur de l'Église. Soyons clairs sur une chose. Lorsqu'on parle ici de la danse, ne tombons pas dans le faux concept de la danse dans l'esprit. La danse dans l'esprit, ça peut peut-être arriver que quelqu'un soit saisi par le Saint-Esprit et se mette à gesticuler d'une certaine manière. Ça peut peut-être arriver, mais honnêtement, on n'en voit aucun exemple dans la parole de Dieu. Tous les exemples de danse qu'on voit dans la parole de Dieu était une manifestation délibérée, consciente tout à fait intentionnelle de la part du danseur ou de la danseuse. On le voit dans différents chapitres. On va voir même David qui va danser. On va dire, on a ce cantique-là, David dansait dans l'esprit. David ne dansait pas dans l'esprit. David était rempli d'une joie intense qui faisait en sorte qu'il se mettait à bouger au rythme d'une musique, au rythme d'une mélodie. Donc soyons très très clairs. La danse telle qu'on le mentionne dans la parole de Dieu, c'est une danse qui est tout à fait consciente, tout à fait délibérée et tout à fait intentionnelle. Et ici, David n'y voyait aucun problème, et puisque c'est la parole de Dieu, la danse devant Dieu n'est pas un problème. La danse intentionnelle n'est pas un problème devant Dieu. C'était comme, voici l'exemple que j'ai devant vous, pour vous. Lorsque vous assistez à une manifestation sportive, et là vous êtes vraiment un fan d'une équipe, et cette équipe marque un but, compte un point. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lever les bras, vous allez gesticuler, vous allez avoir des mouvements pour exprimer votre joie. La danse, à la base, est exactement la même chose. C'est exprimer notre joie envers Dieu avec des mouvements. Quand vous jouez la guitare, vous faites aussi des mouvements. Quand vous battez des mains, vous faites aussi des mouvements. J'ai déjà expliqué que moi, je ne suis pas un adepte de la danse. Je tape du pied et pour moi, ça veut déjà dire que je suis en train de danser. Mais je pourrais me retourner vers les autres en disant, non, j'aime pas que vous gesticuliez. Mais David le faisait et David n'avait aucune honte à le faire. Il le faisait tellement avec véhémence que sa femme va dire, mais quand on te regarde, on pourrait penser que tu es fou. Mais ça ne préoccupait pas David parce que David avait une telle joie à l'intérieur qu'il se voulait de l'exprimer. Et il l'exprimait notamment avec des danses. Dans l'Ancien Testament, on dit de louer Dieu effectivement avec des danses. On voit à un moment donné un prophète qui arrive dans une ville et les gens l'accueillent, les femmes l'acclament avec des tambourins et avec des danses. À un moment donné, il y a des armées qui rentrent au bercail après la victoire et on accueille ces victorieux, on accueille ces vainqueurs avec des danses. Et avec des cris de joie, et avec le tambourin, et avec la trompette. Donc la danse, ne démonisons pas cela non plus. On peut ne pas apprécier. On peut ne pas vouloir le faire soi-même. Mais la danse fait tout à fait partie des moyens qui nous sont donnés pour louer Dieu. Rappelons-nous d'une chose. Toute offrande qu'on apporte à Dieu doit être faite avec joie. Donc, si dans ton cas, danser ne t'amène pas de joie, alors ne danse pas. Ça, c'est mon cas à moi. Je n'aime pas danser. Je suis quelqu'un qui est très statique, qui ne bouge pas beaucoup dans sa période de louange. Tout au plus, je lève les mains, tout au plus, je bats des mains, tout au plus, je me tape sur les cuisses pour suivre le rythme. Mais moi, c'est ma façon à moi de danser. Si on vient me chercher pour me forcer à danser, croyez-moi, je ne serais pas de bonne humeur. Je me suis déjà retrouvé dans des contextes où je n'avais rien contre les gens qui voulaient danser pour célébrer le Seigneur. Mais je disais simplement, venez pas me chercher. Moi, ça m'embête. Moi, ça me rend mal à l'aise de le faire. J'aime pas cette chose-là pour moi-même. Donc, si pour toi ça ne t'amène pas de joie, si pour toi danser ne se fait pas avec joie, alors ne le fais pas. De surcroît à cela, si toi ça t'amène de la joie, un, fais-le. Tu veux bouger? Bouge, tu as le droit. Mais ne force pas celui qui veut être discret à ne pas à oublier sa personne et à se mettre à danser. En contrepartie, toi qui es discret, moi qui suis discret, moi qui pour moi-même n'apprécie pas la danse, je n'ai aucun droit de l'interdire à l'autre. Cela fait partie du culte qu'on rend à Dieu. Donc, je rappelle une chose sur la danse. La danse, ce n'est pas une question de marionnette. Une onction de Dieu tombe sur toi, puis là, il te met à gesticuler. Tu lèves le bras droit, puis tu lèves le bras gauche. Puis à un moment donné, tu lèves le pied droit avec le bras gauche, ou vice-versa en même temps, à un rythme, à une cadence, hein, selon une séquence déterminée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la danse que David faisait. Ce n'est pas ça la danse auquel était, ou les danses auxquelles était convoqué le peuple d'Israël. C'était quelque chose d'intentionnel, d'assumer, de réfléchir. Alors pour nous aussi dans l'Église, ça devrait être la même chose. On devrait effectivement permettre à ceux qui veulent louer Dieu en dansant de louer Dieu. Tout se fait bien sûr dans le respect, tout se fait bien sûr dans la décence, tout se fait aussi dans le bien fondé de l'assemblée. Si vous voulez vous mettre à danser pendant la prédication, mais probablement que c'est pas le temps. Au même titre aussi, quelqu'un veut se mettre à prophétiser pendant une prédication, ce n'est pas le temps. Il y a un temps pour toute chose. Donc je crois que la danse aussi dans la louange peut avoir sa place et devrait avoir sa place. Puisqu'on nous dit louez-le avec le tambourin et avec des danses. Est-ce que ce verset-là fait partie d'un psaume? Oui. Est-ce que ce psaume fait partie de l'ensemble du livre des psaumes? Oui. Est-ce que le livre des psaumes fait partie de la Bible? Oui. Est-ce que la Bible est parole de Dieu? Oui. Donc la danse est aussi pensée par Dieu pour le célébrer, est aussi un moyen pour célébrer Dieu. Dernier point pour ce matin. Regardez les instruments qu'on nous donne. Tambourin, instruments à cordes, chalumeau. Les instruments à cordes, le terme qui est utilisé, c'est le terme men, M-E-N. Je répète, M-E-N, c'est le grand terme en français, instruments à cordes. Quand on parle du chalumeau, c'est le wakgab, wakgab. Donc U-W-G-A-B, U-W-G-A-B. Instrument à cordes, ça regroupe l'ensemble de tout ce qui est le luth, la sitar, la harpe, donc tous les instruments de l'époque qu'on avait qui se jouaient à cordes, qu'elles soient cordes frottées, cordes pincées ou cordes frappées. De surcroît à cela, le chalumeau, donc le wogab, je ne sais pas vous le prononcer correctement, ça regroupe non seulement ce qui était la famille des flûtes, la flûte traditionnelle, un peu comme le pipeau, la flûte de pan, qui était tout simplement des petits bouts de bois creux à une certaine, d'une certaine grandeur différente qui émettaient, lorsqu'on souffle dedans, des bruits différents. Et ça voulait aussi dire tout ce qui était parent de ce qu'on appellerait aujourd'hui la cornemuse. La cornemuse, cette espèce de sac avec des pipes ou des boyaux qui en sortent en bois et dans lequel on soufflait et qui émettait un son. Donc, tous les instruments, en fait, lorsqu'on parle du chalumeau, on va rassembler sous ce terme tous les instruments avant. Donc, ici, on nous parle de percussion avec le tambourin, on nous parle d'instruments à cordes et on nous parle d'instruments avant. La variété des instruments, des styles et des époques, c'est OK. On a des instruments qui sont mentionnés ici qui sont très antérieurs à l'époque de David. On a des instruments qui sont plus contemporains à l'époque de David, notamment l'espèce de cornemuse, si vous voulez. Donc, ces instruments-là se mariaient, étaient associés pour célébrer Dieu. Et assurément, entre l'époque d'Adam et l'époque de David, voire même entre l'époque de Moïse et l'époque de David, il y avait une différence dans les styles, il y avait une différence dans les mélodies, il y avait une différence dans les vers qui étaient prononcés. Donc, la variété des chants, la variété de la musique, la variété des styles était correcte dans la louange envers Dieu. Musique, chant et danse sont liés dans la louange. Et chacun d'entre eux était fait avec joie. Lorsqu'on parle effectivement de louer Dieu avec tambourin et avec des danses, on parle essentiellement de moments de joie, d'exultation, des moments où on célèbre Dieu avec allégresse. Et c'est vrai que 95% des fois où on va mentionner c'est des instruments comme ceux-ci qui sont utilisés, on parle de moments qui sont heureux et qui sont festifs. Mais j'aimerais aussi dire, la personne qui parmi nous serait un musicien, un instrumentiste si vous voulez, quelqu'un qui joue un instrument, que ce soit un instrument effectivement physique, une guitare, la batterie tout seul, ça peut être un peu ardu, mais c'est correct. On peut, avec de bon coton dans les oreilles, on peut ne pas être dérangé par l'instrument qui serait joué tout seul par quelqu'un. Mais quelqu'un qui joue le violon, quelqu'un qui joue la flûte, regardez, c'est un instrument que Dieu vous a donné pour le célébrer. Mais c'est un instrument qui peut être aussi utilisé dans les moments de tristesse. Je vous lirai un verset. Si vous voulez tourner avec moi dans Job au chapitre 30. Job, le chapitre 30 et le verset 30. Job est en train de décrire ce qui se passe dans son corps physique. Et voici ce qu'il va dire. « Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. » Donc c'est une période dans le paroxysme de la douleur qu'il éprouve. Et là, au verset 31, il dit « Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. » Vous allez me dire « C'est pas de la louange ici. » Et effectivement, ce n'est pas de la louange. Mais pour Job, c'était malgré tout un outil exutoire de la part, ou pour Job. C'était un moyen pour lui de sortir d'exprimer sa douleur autrement que par des pleurs, autrement que par des cris. Et pour vous qui êtes des adorateurs, pour vous qui êtes probablement des chantres, pour vous qui êtes possiblement des musiciens, sachez que ce don qui vous a été accordé par Dieu sera aussi profitable pour vous dans les moments de douleur. Alors, ne laissez pas votre guitare de côté lorsque vous êtes triste. N'abandonnez pas votre violon lorsque vous êtes abattu. Ne jetez pas vos baguettes de la batterie lorsque vous n'êtes pas de bonne humeur. Retournez à cet instrument-là. Pour Job, c'était un moment de sortir sa mélancolie, de sortir le trop-plein à l'intérieur. Et je parle assurément aujourd'hui de façon très délibérée. On nous dit que dans cette période de pandémie et dans cette période de confinement, qu'on vit un peu tous et un peu partout, le trouble en santé mentale s'accentue. Tous les moyens exutoires, tous les moyens apaisants sont une grâce de la part de Dieu. Alors si Dieu t'a donné de jouer le piano, va jouer ton piano. Si Dieu t'a donné d'avoir une voix pour élever une louange envers Dieu, mais commence à élever ta voix, commence à chanter. La Bible nous dit que Dieu se tient dans la louange de son peuple. Peut-être vas-tu ressentir une guérison, peut-être vas-tu ressentir une délivrance, peut-être vas-tu ressentir la paix de Dieu qui te gagne en pianotant ton clavier, en gratouillant les cordes de ta guitare, en aiguisant un peu les cordes de ton violon, en sortant ta flûte, peu importe l'instrument, peut-être que c'est le moyen que Dieu va utiliser pour t'accorder soulagement, t'accorder consolation. Alors si effectivement tu as ce don de musique, ne le laisse pas quand ça va mal, continue à l'utiliser. C'est un moyen que Dieu t'a utilisé pour sortir le trop-plein. Peut-être que vous me permettrez une ou deux minutes supplémentaires. Quand j'étais malade, je vous ai dit que par moments, j'étais tellement fatigué, tellement à bout de force physique, mais aussi émotionnelle. Et ce que je faisais pour sortir le trop-plein d'émotions à l'intérieur de moi, et parce que je ne voulais que personne me voie ni m'entende, parfois je suis allé prendre des douches, mais tellement longues qu'il ne restait plus d'eau chaude à la maison. Et la seule chose que je faisais, je pleurais. Et pendant longtemps, j'ai grandi avec tous les héros de la littérature classique qui étaient pour moi des modèles. Le plus important était Jean Valjean. Et Jean Valjean, dans une des scènes des Misérables, va prendre un fer rouge et va se l'appliquer sur le bras et va rester taciturne, impassible, sous la douleur, tout simplement pour faire peur aux gens qui veulent l'escroquer et leur montrer qu'il est fort. Et pendant longtemps, moi, l'image de l'homme fort que j'avais et l'image que j'essayais d'être, c'était cet homme qui ne pleure pas. Et assurément, je ne suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup de nature. Je connais pas de grandes exaltations, mais de nature, je connais pas non plus de grands abîmes de déprime. Mais dans ce niveau-là, je pleurais pas beaucoup. Et je me suis rendu compte, pendant la maladie, que Dieu m'avait donné des larmes, Dieu m'avait donné des yeux pour que les larmes coulent, et que les larmes étaient un piston de sûreté qui évacuait le trop-plein de vapeur à l'intérieur de moi. Quand c'était trop dur, quand c'était trop intense, j'ai appris à accepter de pleurer, et je pouvais me cacher, je ne voulais pas que les gens me voient, je voulais ni les affliger, ni être pour eux une source de découragement supplémentaire. Donc j'allais dans mon coin privé, j'étais tout seul devant le Seigneur à pleurer. J'ai parfois fait cela dans la voiture, en arrêtant la voiture quelque part où personne ne pouvait me voir. Et pendant une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, une heure, je ne sais pas, je pleurais pour que le trop-plein se vide. Il y a des occasions où on a besoin de sortir la mélancolie, où on a besoin de sortir la tristesse. Et je crois qu'effectivement, pour notre bien-être, Dieu nous suscite des outils pour permettre effectivement à la pression de sortir. Pour les musiciens, ça va sortir sur un clavier. Pour un chanteur, une chanteuse comme mon épouse, ça va sortir par la voix que Dieu lui a donnée. Pour quelqu'un comme moi, ben, ça sort différemment. Donc, si tu es un musicien, si tu es un chanteur, n'aie pas peur de te réfugier aussi dans ton instrument, dans ton chant, dans les dons que Dieu t'a donnés pour extérioriser, pour vider le trop-plein d'émotions. Et si, comme moi, tu n'as ni le chant ni la musique, ben, sache que les pleurs et les larmes sont aussi un outil que Dieu nous donne pour sortir le trop-plein. Alors ça, c'était la partie finale pour aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aujourd'hui qu'effectivement, la variété des instruments, la variété des styles était correcte dans la louange à élever à Dieu, que c'était permis. On a vu que la danse était aussi quelque chose à laquelle on était exhorté à se faire ou à peaufiner. Donc la danse fait partie aussi de la louange à Dieu et que finalement, si effectivement Dieu nous a donné certains dons musicaux ou de chants, ben pourquoi ne pas s'y ramener, y retourner pour faire sortir le trop-plein d'émotions, même dans cette période de pandémie. Et finalement, juste un conseil pour vous et pour moi ce matin, pourquoi ne pas, dans votre temps personnel, entonner un ou deux hymnes de votre enfance ou des années passées, des décennies passées pour célébrer Dieu aujourd'hui? Alors, on va prier pour terminer ce matin. Seigneur, on te rend grâce pour ta présence, on te rend grâce pour ton assistance. Merci, Seigneur, de ce que tu nous permets de profiter des dons et des talents de tous ces musiciens, de tous ces chantres que tu places autour de nous. Et merci Seigneur que même dans notre privé et dans notre rencontre publique, tu nous permets Seigneur en toute liberté et sans gêne de pouvoir élever nos voix tous ensemble pour te chanter, pour te célébrer, pour te louer et t'adorer et ramener toute la lumière et toute la gloire sur toi. Mais merci aussi, Seigneur, de ce que dans les temps plus difficiles, pour certains, Seigneur, tu leur as donné un piano, une guitare, un violon, quel que soit l'instrument, et ça a été le moyen pour eux d'être soulagés, d'être apaisés. Alors je prie, Seigneur, qu'il en soit encore de même pour ma sœur et mon frère. S'ils ont ces dons musicaux, qu'ils puissent y avoir recours pour, oui, te célébrer, mais aussi recevoir de toi, pendant qu'ils jouent leur instrument, toute la paix et toute la consolation dont ils ont besoin. Alors j'appelle aujourd'hui ta grâce sur la vie de ma sœur, sur la vie de mon frère. Bénis-nous aujourd'hui. Permets-nous de te célébrer. Ramène à notre pensée peut-être, Seigneur, des chants qu'on a oubliés avec les années, mais pour lesquels, Seigneur, nous pourrions prendre quelques minutes tout simplement pour t'adorer comme nous l'avons fait par le passé. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur et sur mon frère. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors on va saluer quelques personnes. Simplement vous rappeler le rendez-vous pour ce soir avec le pasteur Sergio. C'est à 19h, heure de Montréal, bien entendu, l'étude qui s'intitule « Servir Dieu en temps de défi », principalement basée sur le livre de Marc. Donc, on vous invite à être là avec le pasteur Sergio ce soir, 19h. Alors, on salue la sœur Evelyne, la sœur Diana, la sœur Sylvia, on salue Ramon Farley, sa maman Marie-André, Juan Alberto. Qui d'autre? On salue Tina, on salue Michel, on salue aussi le pasteur David, et qui d'autre? Et je pense que c'est tout pour ce matin. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là. J'ai été béni d'être avec vous ce matin, comme à chaque matin. Je me lève et je prépare ma caméra, je prépare tout mon matériel et j'ai hâte de vous retrouver quand on arrive à 8h16, 8h17, là je me dis ok, dans une ou deux minutes je me connecte, donc j'ai tout le temps énormément de plaisir à vous avoir avec moi et c'est un honneur de vous compter présent. Vous pourriez faire bien d'autres choses, vous pourriez vous préoccuper de bien d'autres choses, donc j'apprécie que vous soyez là matin après matin et j'appelle la bénédiction de Dieu sur vous aujourd'hui et merci encore. Donc 19h ce soir avec le pasteur Sergio. Et pour nous, on se retrouve demain matin à 8h30. Je pourrais avoir peut-être quelques minutes de retard. J'ai des examens ce soir. J'ai un petit traitement demain matin aussi, de bonheur. Donc, ça se pourrait que j'ai un petit peu de retard. Mais en général, ils ne m'ont pas gardé trop longtemps. Donc, je devrais être là pour l'heure appropriée demain matin. Sur ce, passez une bonne journée. Malgré la pluie, louez Dieu. Soyez festifs dans votre manifestation de joie et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée à tous!